minutes.
Non. Écoute, franchement, là...
En direct.
En vacances.
Radio X.
Midi 50, c'est Jesse Wallet qui est en vacances avec Patricia Vincent. Puis c'est qui le remplace?
C'est Gary.
François Gariépy, mais il est surtout avec Nick Cloutier. Merci d'avoir syntonisé le 98.1. On est très content de vous avoir avec nous. On vous a en fait tricoté un très, très bon show de radio aujourd'hui. Des sujets qui vont être un peu plus difficiles, des sujets qui vont être un peu plus faciles. Là, on tombe dans le plus crunchy, en fait le plus difficile, mais c'est quelque chose que je souhaitais faire avec vous, les auditeurs. Je vous présente Olivier Teasdale. C'est un nom qui vous dit évidemment quelque chose. C'est le fils de Jacques Teasdale qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Et Olivier mène un combat depuis le décès de son père, le triste décès de son père, un combat pour connaître les circonstances entourant le décès de celui-ci. Moi, quand mon père est parti, c'était clair, il était à Michel Sarrazin, il était entouré d'amour, il ne souffrait pas, il avait la bonne médication. Mais c'est pas tout le monde qui a droit à ce traitement-là en fin de vie, tirer sa révérence, mourir, en fait, c'est devenu de plus en plus un sujet qu'on aborde ici au Québec. Et Olivier Teasdale, comment ça va aujourd'hui?
Hey, ça va bien, merci beaucoup pour l'invitation, c'est très apprécié.
Olivier, j'ai vu ton post hier, parce qu'on est amis Facebook, on se connaît pas personnellement, mais je suis toujours la quête, en fait, que tu mènes concernant la vérité que tu veux atteindre concernant le décès de ton papa Jacques Teasdale. Il y a eu du nouveau, en fait, dans les derniers temps, dans les derniers jours, en fait, tu as reçu des mises en demeure de la part du CHU de Québec, mises en demeure de Santé Québec. Là, je suis un peu traumatisé parce que, dans le fond, c'est seulement qu'un fils... Olivier, un fils qui veut faire la lumière sur les circonstances entourant le décès de son père. Et là, on tente de menotter. Est-ce que tu as fait quelque chose de grave, Olivier, pour qu'on t'empêche de vouloir connaître la vérité?
Écoute, je dirais absolument pas. Je pense qu'on fait rien de grave. Depuis 2 ans maintenant, ben vous le savez, on dénonce dans l'histoire de mon père ce qui s'est passé, qui est extrêmement malheureux. C'est une tragédie pour notre famille dans le sens où on aurait pu passer des bons moments avec mon père à ce moment-là. Mon père serait encore en vie aujourd'hui si on s'en est occupé, pour se le rappeler. Puis il
quel âge avait-il quand il est décédé, ton papa? Puis c'est arrivé exactement quand, là, pour être sûr?
74 ans, il est décédé le 16 juillet 2024. Donc, ça fait près de 2 ans qu'on est dans ce combat-là contre le CHU de Québec et d'autres acteurs, bien entendu, qui sont dans l'histoire de mon père. Effectivement, là, on vient de recevoir une mise en demeure officielle là, de Santé Québec la semaine dernière, nous demandant de cesser toute communication dans le dossier de mon père, que ce soit médias sociaux, réseaux sociaux, TikTok, Facebook. Nommez-les tous. Ils ne veulent plus qu'on commente l'histoire de Jacques Teasdale. Et tout ça, il faut dire, ce qui est important, c'est la guerre a commencé un peu plus, je voudrais, puis j'appelle ça la guerre. Depuis le début juin, où est-ce qu'on a demandé des précisions sur la dernière nuit de vie de mon père? Vous savez, vous l'avez dit, votre père était à Michel Sarrazin.
Oui.
Il a eu la chance probablement de mourir entouré de sa famille.
Oui, c'est une chance, assurément, Olivier.
Absolument. Mon père, lui, il a demandé à ce que sa famille vienne le rejoindre cette nuit-là. On a eu plusieurs témoignages, mais jamais on nous a appelés. On l'a laissé mourir seul, comme on veut dire l'expression, mourir seul comme un chien dans sa chambre, sans que personne prenne le temps de s'occuper de lui. Donc maintenant, on souhaite une mise en demeure pour qu'on arrête de dire, qu'on arrête de parler de Jacques Teasdale. C'est ce qui est aberrant un peu dans l'histoire parce qu'on me met la faute sur la démotivation des employés de rentrer à Santé Québec ou au CHU de Québec, à l'hôpital de l'Enfant Jésus, ou appelez-les comme vous voulez.
À cause de Olivier Teasdale.
Exactement, mais il faut se rappeler que là, les crises au niveau du CHU de Québec, que ce soit l'Enfant Jésus ou à d'autres hôpitaux du système de santé, dans les médias, on entend parler à tous les jours. Il n'y a pas juste Olivier Teasdale qui critique le système de santé aujourd'hui. Donc,
je crois
avoir le dos très large.
Est-ce que, Olivier, la mise en demeure de Santé Québec qui a été acheminée enfin à ton intention est signée de la plume de Geneviève Biron?
Non, la mise en demeure est signée d'un avocate de Santé Québec. Là, c'est pas la direction de Santé Québec. Ça doit être leur contentieux, là, la direction des litiges, comme on les appelle, qui nous envoie la mise en demeure et nous donnant toutes les informations qu'ils veulent avoir. C'est une mise en demeure de quelques pages, je voudrais 3-4 pages. Et puis cette mise en demeure-là, ben, comme je vous ai, nous a envoyé le 16 juin avec plusieurs propos dedans qui sont, à mon point de vue, irréalistes. Au même titre, on disait aux médias aujourd'hui, Santé Québec ne veut plus que vous critiquiez le système de santé.
Oui.
Bon, ça serait un peu, comment je pourrais dire?
Ça serait un peu...
irréel.
Oui.
Irréel.
Ça serait un peu difficile aussi pour les gens qui travaillent à Radio X parce que c'est assurément une chose qu'on fait, critiquer le système de santé quand il n'est pas bon. On le dit, quand on fait des bonnes choses, on le dit aussi. Olivier, pour que je comprenne bien, puis que les gens aussi comprennent bien, ton père, Jacques Teasdale, là, c'est un journaliste très connu dans l'histoire de TVA ici à Québec, CFCM4 là, pour les plus vieux. Il était aussi conseiller municipal ici même à la Ville de Québec. Mais il semble que Santé Québec ou même Chute Québec, là, d'essayer de te menotter, Olivier Teasdale, avec des mises en demeure. Mais il semble que c'est contre-productif, mais c'est surtout impossible, sachant que, dans l'ADN même de ta famille, il y a l'espèce de volonté de faire toute la lumière. Jacques Teasdale, c'est un bon journaliste qui a fait la différence dans l'histoire de la Ville de Québec. Et là, on veut museler la fin de sa vie. On veut faire, en fait, une noirceur sur la façon dont il est mort.
En fait, je voudrais même ajouter une chose. Je disais à un de vos collègues ce matin en entrevue, je fais ce que mon père aurait fait dans son métier de journaliste. Mon père n'aurait jamais laissé tomber personne. Mon père, au front, ce serait l'individu qui vient en arrière chercher les blessés pour retourner en avant après. De tenter de me museler alors que j'ai l'ADN de mon père, je vais vous dire, c'est impossible. Il n'y a personne qui va me faire taire parce que ma voix, même si aujourd'hui elle est un peu rauque, voix va continuer, elle va continuer de faire vivre l'image de Jacques Teasdale. Vous savez, dans toute cette histoire-là, il y a autant d'actions politiques que de justice. On a fait des rassemblements en avant du Parlement de Québec pour essayer de parler avec le gouvernement, essayer d'ouvrir le dialogue avec Santé Québec, essayer d'ouvrir le dialogue avec la ministre et le ministre de la Santé. On est rendu à 2 ans. On est rendu à des centaines de messages, des gens qui nous comptent des histoires. Malheureusement, le gouvernement nous ferme la porte. Malheureusement, Santé Québec nous ferme la porte. Et aujourd'hui, on dit on veut que Teasdale se ferme. Mais je suis désolé de vous dire ça aujourd'hui, mais Teasdale, il ne se fermera pas parce que je vais continuer de défendre ce que je fais depuis 2 ans et je ne crois pas le faire mal. On dit que ça peut être des propos diffamants. Je raconte une réalité avec des faits qui sont vérifiables, avec des notes médicales qui sont vérifiables, avec des témoignages qui sont vérifiables et avec surtout le vécu de ma famille et moi qui a vu mon père se dégrader jour après jour. Et je vous rappelle qu'on a dû même intervenir et faire envoyer des lettres d'avocats à l'époque quand mon père était à l'hôpital pour qu'il obtienne des bons soins. Ça nous a privés d'un grand nombre d'heures de temps de qualité avec lui avant qu'il décède parce qu'il a fallu se battre pour qu'il continue à obtenir des bons soins après l'oubli de suivi.
Olivier, tu as publié ce matin une photo de ton père dans une mauvaise posture. En fait, j'imagine que c'est dans les derniers moments de sa vie, peut-être même la dernière journée. C'est assurément pas au top de celle-ci. On le voit dans une espèce d'état piteux, dans une chaise, dans une jaquette d'hôpital. C'est pas clair la photo, mais on comprend que c'est vraiment une situation compliquée avec des taches sur ses vêtements. On dirait qu'il a été laissé à l'abandon. Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as compris de la dernière nuit de ton père, le dernier 24 heures? Puis surtout, qu'est-ce qu'il y a dans la mise en demeure? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on exige de toi? Que tu te taises complètement sur les derniers moments de ton père?
Pour y aller sur la mise en demeure, Santé Québec est beaucoup plus large que ça. Santé Québec ne veut plus qu'on utilise les mots dignité, perte de dignité, insensibilité, indifférence. On nous demande d'arrêter d'utiliser ces mots-là.
Ils vont aimer ton intervention à Radio X ce midi, hein?
Ils vont être malheureux aujourd'hui. Puis écoutez, je m'adresse directement à eux aujourd'hui. Tout ce qu'on me demande, je le ferai pas. Parce qu'on peut pas retirer l'ensemble de ce qui est bien fait. Je vous dirais, de faire les publications, ça nous demande beaucoup de courage. Ça nous demande du temps. Ça demande d'énergie à ma famille et à moi. On le fait parce qu'on veut, oui, politiquement, que les gens se réveillent actuellement. Il n'est pas trop tard pour améliorer le système de santé, mais on le fait aussi pour sensibiliser la population, sensibiliser les gens à ce que... Vous savez, dans le milieu de la santé, il y a du personnel de santé incroyable.
Oui.
Il y a des infirmières, des infirmiers, des médecins qui sont extrêmement bons. Malheureusement, dans mon père, il y a eu quelques pommes pourries qui ont fait que mon père a été maltraité. Mais c'est ça qu'il faut qu'il change, parce que ces gens-là qui maltraitent n'ont pas leur place dans le réseau de la santé, surtout maltraiter nos aînés qui, je vous rappelle, ont bâti le Québec avant nous. Là. Ils sont passés avant nous. Ils nous ont tracé le chemin. Mon père m'a éduqué. Il m'a bâti dans la vie. Il m'a montré le chemin. C'était pas juste mon père. Là. C'était mon buddy. C'était mon partenaire d'affaires. C'était mon ami. C'était l'ensemble de l'œuvre de ma vie, mon père. T'sais, c'était pour moi mon modèle. Alors, quand Santé Québec me demande de me taire et d'enlever tout ce que j'ai bâti sur les réseaux sociaux actuellement, avec les médias de Québec aussi, c'est clair, net et précis qu'on devra, oui, se battre encore plus, probablement qu'on nous amènera peut-être devant un juge, devant une cour. Mais je vais aller défendre la liberté d'expression que mon père, soit dit en passant, aurait largement défendue. Et pour ce qui est de la dernière nuit,
Oui, les 24 dernières heures, le contexte, en fait, qui ont entouré le départ de ton père. Bon, on présume qu'il n'était pas top shape, là, s'il était à l'hôpital, puis il avait quand même un certain âge, là, dans la 70aine. Ça se peut qu'il y ait des maladies, des moments plus difficiles. Mais est-ce que vous aviez espoir qu'il survive? Il n'est pas rentré à l'hôpital pour mourir, là.
Non, absolument pas. Écoutez, il faut juste rappeler que mon père, cette dernière nuit, en était à la 16e journée de son hospitalisation post-chimiothérapie. Il faut comprendre, ceux qui connaissent le bonhomme, comme on dit, mon père m'a regardé dans les yeux quand on a eu diagnostiqué la maladie, dit, on va se battre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à faire. Puis mon père, même en rentrant à l'hôpital le 30 juin 2024, ils ont continué de se battre. Puis il savait qu'il était magané, mais lui,
il souffrait de quoi,
sa volonté, cancer du poumon. Écoute, c'est un cancer du poumon stade 4. On comprend que c'est une maladie qui est grave, mais avec l'oncologue, on avait établi un plan de match qui pourrait l'aider à vivre un peu plus longtemps. On ne s'attendait pas à ce qu'il vive juste 2 mois après le diagnostic, mais le plan de match était clair. Jacques voulait se battre jusqu'au bout, avec même le fait... Vous voyez, mon père était maltraité. Là, la photo qu'on voit, il est dans son sang. On le laissait dans son
c'est
urine.
C'est bien du sang que je vois sur la photo, là.
Absolument, absolument. Absolument, c'est du sang. Je vais vous donner un exemple.
C'est même du sang séché. Ça fait longtemps qu'il est là, ce sang-là. Là.
Absolument. On demandait à ce que les lits soient changés ou les couches, les culottes d'incontinence soient changées. On le laissait baigner. À un moment donné, on est obligé de prendre le charpie pour faire des notes. C'était 24 heures dans ses excréments. Vous savez, quand les excréments sont pris après la peau, puis la peau suit quand on nettoie, là, oui. Pas parce que ça fait 15 minutes que c'est là. Là.
Non.
Ça fait plusieurs heures que c'est là. Puis il n'y a personne qui accepterait de vivre comme ça. Puis Santé Québec me dira ce qu'il voudra. Santé Québec n'était pas dans la chambre de mon père quand tout ça s'est passé. Puis par contre, on leur avait demandé d'améliorer les soins. Il n'y a jamais personne qui a levé le petit doigt pour le faire, autre qu'un comité qu'on nous a créé et qui nous ont fait miroiter en nous promettant que ça allait changer. Malheureusement, ça n'aura jamais changé. Vous savez, il y avait ma mère qui était là.
Oui, comment
ma
va
mère
ta
qui
mère?
Était mariée avec mon... Elle va bien, elle va bien. Aujourd'hui, ça va bien. Elle était mariée avec mon père depuis 50 ans, puis elle voyait son mari délaissé comme ça. Mettez-vous à la place d'une femme qui aime son homme, là, puis qui le voit dépérir comme ça, puis que personne n'en prend soin. Tous les soirs, elle me disait, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis de voir ta mère qui est triste, puis de voir ton père qui pleure, puis il dit, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors que Jacques a toujours aidé tout le monde.
Mais oui, il a une belle vie, les gens le reconnaissaient. Je suis sûr qu'à l'épicerie, quand tu étais petit, tout le monde disait, c'est Jacques qui est là, le reconnais-tu? Il est frisé, c'est lui qu'on voit à TV.
Absolument. Et c'est pour ça que je vous dis que l'aspect politique du dossier est aussi important. Parce que je pense que le gouvernement doit se rendre compte de ce qui s'est passé avec mon père pour faire la différence. Puis vous savez, sa dernière nuit, il y a eu un incident qui était isolé. Il y a eu des notes qui sont modifiées. La minute où on a demandé d'avoir l'original des notes pour les comparer.
Quel incident, lui?
C'est un incident. Ce qui arrive, c'est que le pick-line a été retrouvé ouvert. Quand on parle du pick-line, là, pour les gens qui connaissent ça, c'est là où est-ce qu'on va prendre des prises de sang ou injecter de la médication. Le pick-line a été retrouvé ouvert vers les 2h du matin. Et puis, il y a un incident qui a été déclaré par une infirmière. Donc, elle a suivi un chemin. Elle a suivi un chemin jusqu'à 7h08 le matin, une quarantaine de minutes avant qu'on retrouve mon père décédé dans son lit. Et si on prend après ça, à partir de 2h, la même personne, qui est ce qu'on appelle un CPI, un infirmier qui n'a pas encore le titre d'infirmier pour pratiquer, mais qui est supervisé par une autre infirmière ou un autre infirmier.
Un aide-infirmier.
Les notes sont totalement modifiées. On nous fait miroiter un rapport de surveillance aux 15 minutes. Le rapport n'existe pas dans les notes. Il n'y a rien qui existe. On a des modifications.
Donc on a trafiqué les rapports. Là. On a essayé de faire coordonner des choses pour...
De là, vous dire que c'est trafiqué, je ne peux pas vous dire la procédure. Ce qu'on comprend, c'est que les notes ont été modifiées. Puis nous, ce qu'on demande de voir, c'est les notes originales pour les comparer avec les notes modifiées. Et depuis ce jour-là, là, depuis le jour 1, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de problème à voir les documents qu'on demandait à l'époque, jusqu'au moment où la dernière nuit, on disait... Ça marche pas, là. Ici, il y a quelque chose qui marche pas, puis on avait eu plusieurs témoignages.
C'est
dans
la nuit où on se pose le plus de questions, là. C'est là que ça s'est passé. Le décès de Jacques Teasdale est lié avec les événements des dernières 24 heures de sa vie.
Il y a quelque chose qui s'est passé dans la chambre de mon père cette nuit-là. On le forçait à se coucher sur le dos alors que il était incapable. Vous savez, quelqu'un qui a le cancer du poumon,
oui.
Lorsqu'on le force à se coucher sur le dos, il étouffe. Il étouffait automatiquement. Il se mettait à pleurer, à crier. C'était la panique pour lui. Il était toujours assis du côté gauche. Là, on l'a embarré du côté gauche pour l'envoyer du côté droite. Il y a plusieurs affaires qui se sont passées cette nuit-là, puis on demande les notes originales pour pouvoir... Puis tant mieux si les notes originales nous disent qu'est-ce qui est arrivé clairement, puis que c'est correct.
Oui.
Nous autres, ce qu'on veut voir, c'est comprendre. C'est comprendre qu'est-ce qui est arrivé cette nuit-là. On me dit des fois, comme Santé Québec nous dit dans la mise en demeure, vous nous dites qu'on a falsifié justement des rapports, mais si vous voulez pas qu'on ait des doutes, si vous voulez pas qu'on... On ne croit
en fait,
pas
on se pose des questions,
de
Olivier. Tu prétends que peut-être il y aurait eu falsification. Tu n'affirmes pas qu'il y en a eu.
Exactement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Démontrez-nous le contraire. Montrez-nous les documents. présentez-nous les documents, comme ça a été le cas quand on a demandé le dossier médical, puis on va assembler ça avec les notes qu'on a actuellement. On va pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec mon père cette nuit-là.
Est-ce qu'il y a une différence entre la mise en demeure du CHU de Québec et celle de Santé Québec? Est-ce que ce sont des copier-coller ou il y a des argumentaires différents en provenance de ces deux organismes?
En fait, Santé Québec est vraiment une mise en demeure officielle. Pour ce qui est du CHU de Québec, au niveau de l'interne, c'est plus un document écrit qu'ils nous ont envoyé nous disant que ce qu'on faisait avec le dossier médical, on n'avait pas le droit d'en parler. On voyait que déjà là, il se formait une espèce de question-réponse, dans le fond, pour dire, ben là, on veut plus que Teasdale utilise le dossier médical de son père pour donner de l'information aux gens. Il faut comprendre que j'ai pas pris le dossier médical et je ne l'ai pas publié intégralement. Je publie.
Tu le possèdes
notes,
pas.
Exactement. Moi, j'ai le dossier médical avec moi.
Oui, OK, tu l'as.
Oui, je l'ai au complet. Quand j'écris, je me base sur des... Je vais vous donner un exemple très clair. Une stomothérapeute dans le dossier de mon père mentionne qu'elle a retrouvé mon père dans sa chambre, les membres inférieurs, donc les jambes, on se comprend, des genoux ou des hanches jusqu'aux pieds, baignant dans l'urine. Vous savez, quand nos membres inférieurs baignent dans l'urine, là, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous voir il y a 3 minutes parce
non,
que ça allait bien.
Non, c'est pas un petit pipi qui fait ça, là.
Non. Les pansements sont imbibés d'urine. Elle demande à ce que les pansements soient faits d'une certaine manière. Jamais on respecte la manière. On prend des gaz, on les met sur la peau directement. Chaque fois qu'on enlève ça, on arrache la peau au complet des jambes. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées. Et de là, la position de maltraitance. Vous savez, la maltraitance, c'est pas juste « je vais te faire un coup de poing sur le nez puis tu vas souffrir ».
Mais c'est l'absence de soins.
Exactement. Et c'est là qui nous amène aujourd'hui, depuis 2 ans, à avoir publié des choses sur le dossier de mon père, des informations, et de dire aux gens, c'est pas juste pour la famille Teasdale, hein. Ça peut arriver pour la famille Lachance, Beaulieu, Bérubé. Ces gens-là qui vont se faire museler par Santé Québec, ils vont arrêter de se battre parce qu'ils ont peur. Les gens ont peur d'affronter Santé Québec.
Mais toi, t'es un Teasdale, t'as pas peur.
Absolument pas. Écoutez, je suis de la même. J'ai pas été journaliste dans ma vie, mais j'ai les mêmes gènes que le paternel, qui était d'une grandeur quand même assez incroyable. Et pour ceux qui l'ont connu, connaissent, se rappelleront ses bonnes pattes, ses grosses mains. On est bâti sur le même frame. Puis je vais vous dire une chose. Tu sais, je suis rendu là actuellement, je vais continuer de défendre l'honneur et l'intégrité de mon père jusqu'à la fin de ma vie. S'il faut que ce soit jusqu'à la fin de ma vie, je vais le faire. Parce que je trouve ça, je dirais, impardonnable ce qui est arrivé à mon père. Mais je trouve encore plus impardonnable ce que Santé Québec tente de faire en cachant la vérité. Moi, si j'étais Santé Québec aujourd'hui, là, si j'avais été Santé Québec à l'époque, si j'étais un dirigeant, je m'aurais dit, hey, là, la famille Teasdale, ça n'a pas bien été. On peut-tu envoyer un intervenant, les rencontrer, s'asseoir avec eux?
Régler on va bâtir la situation. Un
plan. Exactement. Mais on va bâtir quelque chose pour. On a des pistes de solutions. Hein? On fait pas
là, on est en confrontation avec la famille Teasdale. Puis là, ça risque de s'étirer, peut-être même avec le gouvernement subséquent. Est-ce que Sonia Bélanger est intervenue jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez interpellé la ministre de la Santé? Est-ce qu'elle a eu, ne serait-ce qu'une... Est-ce qu'elle a fait une approche en votre direction?
Absolument pas. Écoutez, depuis 2 ans, on a interpellé l'ancien ministre de la Santé, M. Dubé. On a interpellé Mme Bélanger. On a interpellé Mme Fréchette. On n'a pas de réponse. On se bute toujours à... qui est arrivé à votre père est inacceptable et c'est la seule réponse qu'on a du gouvernement actuellement. Mais je pense qu'on ne peut pas se contenter de ce genre de réponse-là. Ce qu'il faut, c'est que les gens nous disent, puis vous savez, j'ouvre une parenthèse, vous savez, vous comme moi, qu'on s'en va en campagne électorale et je peux vous dire que le nom Teasdale va résonner dans la campagne électorale. On va être présent, on va être là, puis c'est pas des mises en demeure qui vont nous éteindre pour la campagne électorale. On va faire du bruit parce qu'on veut que les gens entendent et fassent des changements pour le système de santé, puis c'est surtout pour nos aînés, pour les gens qui sont en vulnérabilité, les gens qui ont besoin.
Et le Québec vieillit, on a besoin d'exemples. Et que M. Teasdale, malgré le drame qui l'a accompagné à la fin de sa vie, ben, ça peut servir d'exemple, ça peut servir de référence et surtout d'un cas à ne pas répéter.
Exactement. Puis vous savez, mon père m'a dit une chose avant de mourir, c'était 2 jours avant sa mort ou 3 jours. Là. Écoutez, j'ai pas les dates exactes, mais on s'est parlé tellement. Quand je prenais des photos, il dit, tu mon gars, il dit, ces photos-là, tu vas devoir les publier à un moment donné parce que les gens ne croiront pas ce qui m'est arrivé. Je pense que c'est une grande forme de courage d'une personne qui était une ancienne personnalité publique, sachant que les gens le verraient dans sa plus grande vulnérabilité.
Parce qu'il y a quand même une perte de dignité. Quand on regarde les photos de ton papa en jaquette avec du sang quasiment dans la couche, là, c'est sûr que d'un point de vue dignité, il n'y a pas la même, fière allure que quand on le voyait closer un reportage à TVA.
C'est en plein ça. Puis je peux vous dire, ça, c'est à part le nombre de fois qu'on l'a retrouvé tout nu, assis dans son lit, la porte ouverte devant tout le monde parce qu'on voulait pas aller l'habiller, on prenait pas le temps de l'aider à s'habiller. Tu sais, c'est tous des petits points que des gens vont dire, ouais, mais ils ont pas le temps, mais je comprends. Sauf que la dignité, quand tu te bats contre un cancer, tu as le droit d'en avoir. Puis c'est ce qui fait que tu vas être plus fort pour te battre contre la maladie. Quand tu as la dignité avec toi, quand tu as les bons soins, quand tu as les gens qui vont t'aider, je pense que ça devient plus facile pour te battre. Parce que quand tu perds ta dignité, je pense que le goût de te battre disparaît petit à petit.
Oui, puis Olivier, je reviens sur la mise en demeure de Santé Québec. Je pense que c'est un combat qui doit être mené, oui, pour ton père, mais également pour les gens qui auraient des problèmes avec le système de santé. Parce que là, tu dis que par l'entremise de vos avocats, vous avez fait savoir à Santé Québec que, ben, tu l'as expliqué, que vous n'avez pas l'intention de vous d'être muselé. Mais à ce que je sache, si je décide de parler de mon dossier médical, je veux dire, j'ai le droit à la liberté d'expression d'exprimer que ça va pas, là.
Absolument, absolument. Puis je regardais la loi, puis je suis pas avocat, là. Je suis pas aussi bon que mon avocat parce qu'on a un bon avocat dans le dossier, puis il travaille très bien, puis il me conseille très bien. Puis je veux vous dire que la liberté d'expression sur le dossier médical de mon père fait partie de la critique en santé.
De l'enjeu.
Et mon père est décédé et je suis le liquidateur, donc je suis Olivier Teasdale. Ouais. Je parle comme si c'était Jacques Teasdale qui parlait, puis vous savez, mon père voulait qu'on continue, voulait qu'on diffuse. Il nous a fait promettre de continuer ce combat-là jusqu'à temps qu'il y ait des solutions puis des règlements qui arrivent pour les gens, qu'on puisse trouver, puis surtout une chose, changer et améliorer les choses pour que les gens ne vivent plus ça, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui va te dénoncer va recevoir une mise en demeure comme ça de Santé Québec, va dire, mon Dieu, j'arrête, parce que c'est impressionnant recevoir une mise en demeure comme
oui.
ça. Tu sais, on ne sait pas
avec
ce qu'on s'en va.
Là.
Exactement, avoir des injonctions interlocutoires, ça s'attend à passer devant le juge. Est-ce que ça va être demain matin? Est-ce que ça va être après-midi? Est-ce que ça va être la semaine prochaine? Moi, je peux dire que je suis prêt. À tous les jours, je vais être prêt. Puis je vais continuer à parler de la même manière, aussi poliment que je le fais depuis le début, sans dénigrer les gens
avec
personnellement.
Avec tempérance.
Exactement, et en critiquant de la bonne manière. Et je suis pas quelqu'un qui est vulgaire, je suis pas quelqu'un qui est violent. Je pense que je fais bien les choses depuis le tout début. Je m'exprime de la manière où mon père se serait exprimé.
Avec ton cœur.
Exactement. On parle avec notre cœur, puis nos tripes, il faut le dire dans ce dossier-là. Nos tripes, parce que c'est pas toujours facile de parler de son père de cette manière-là, je peux vous le dire.
Olivier, Chute Québec t'a envoyé une lettre, une mise en demeure de Santé Québec. Qu'est-ce qu'il y avait dans la mise en demeure de Santé Québec pour que tu sautes un gasket, entre guillemets, là, là-dessus? Parce que la première correspondance du Chute Québec t'a probablement mis en beau fusil. Par la suite, l'envoi de Santé Québec a fait déborder le vase. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette mise en demeure-là qui t'a fait vraiment... qui t'a donné le goût, en fait, de prendre la parole à Radio X, mais partout aujourd'hui, là?
Je pense que les trois points principaux sont clairs. De retirer tout ce que j'ai fait depuis 2 ans.
Toutes tes posts, là.
Absolument. C'est l'intégrité des posts sur les sites que je contrôle, bien entendu. On s'entend que demain matin, je ne peux pas appeler au Journal de Québec ou à Radio X ou d'enlever une intervention radio ou une publication.
C'est la une du Journal de Québec au moment où on se parle, Olivier.
Exactement. Mais vous savez, on va dire que mes propos sont diffamants. Mais j'essaie de trouver la diffamation parce que tout ce que je dis est vérifiable. Et j'annonce à Santé Québec que ça sera un combat parce que tout ce que je dis est vérifiable, est appuyé. Donc, on me demande de retirer l'entièreté des publications qu'on a faites sur Jacques Teasdale et le Chute Québec. De ne plus utiliser les mots, dignité, sensibilité, insensibilité, mauvais soin, toutes ces choses-là. De ne plus utiliser, de ne plus parler des employés de l'unité où est-ce que mon père a été maltraité. De faire attention parce que malheureusement, le pauvre conseil d'administration, ça l'a vexé que je parle d'eux sur les médias sociaux. Ça fait 2 ans, moi, que je leur demande une rencontre, puis on m'ignore totalement. Puis là, je dérange tout d'un coup le conseil d'administration qui ne répondent même pas, ont même pas la politesse de répondre à nos demandes. Alors, je trouve ça aberrant de voir Santé Québec venir nous dire « Retirez vos publications, vous ne vous adressez plus aux médias, les médias sociaux, les réseaux comme Facebook, TikTok, peu importe où est-ce qu'on fait de la publication, on ne parle plus jamais du CHU, on ne parle plus du dossier de Jacques Teasdale. » Donc, ce qu'on fait, c'est le dossier Jacques Teasdale, on le prend, on le met dans un coffre, on le scelle, on le coule dans le fleuve, on n'en parle plus jamais.
Si c'est pas ça qui va arriver avec Olivier Teasdale qui mène un combat que son cœur, en fait, lui dicte de mener, en fait, concernant les tristes événements en lien avec la mort de son père, Jacques Teasdale, un journaliste très connu ici dans la ville de Québec, un conseiller municipal aussi qui aurait fait la différence dans la vie de bien des gens. La meilleure des chances, Olivier Teasdale, pour la suite des choses. Et je me demande, en raccrochant, là, parce que, bon, l'entrevue vient à échéance aujourd'hui à Radio X, mais est-ce que tu n'as pas peur que sur ta boîte vocale, tu aies encore plus de correspondance avec Santé Québec, encore plus de correspondance avec le CHU de Québec, et qu'on finalement, on ait raison de toi et de ta parole, parce qu'on aura mis tout en branle, en fait, pour te faire taire?
Vous savez, j'ai fait une promesse à mon père de me battre jusqu'au bout. Et ça veut dire que tant que je vais respirer, tant qu'il va y avoir de l'air dans mes poumons, puis du cœur, puis du sang dans le cœur, je peux vous dire une chose, celui qui va faire arrêter de parler, Olivier Teasdale, il n'est pas arrivé encore. Je vais me battre jusqu'au bout. Je vais faire en tout ce qui est en sorte pour s'assurer que ce que mon père a vécu, dans le futur, il n'y a plus personne qui finisse par le vivre. Alors, on n'arrêtera pas de parler. Et là, il y a de la place sur ma boîte vocale, il y en a en masse. Puis, des lettres, j'ai un bon cartable pour placer les lettres. Puis, il n'y a pas de problème avec ça, on est prêt. Puis, je veux dire, c'est de montrer aux gens une chose. On peut critiquer en le faisant bien, mais en n'ayant pas à avoir peur de critiquer qu'une entité publique vienne nous faire taire.
Olivier Teasdale, sur ces sages paroles, surtout, je te souhaite bonne chance pour la suite de ton combat. Que la paix...
Merci.
Puisse enfin rejoindre le cœur des membres de ta famille. J'ai une pensée pour ta maman et aussi pour ton papa qui est au ciel. Je vais laisser les auditeurs, je vais terminer cette entrevue-là, pardon, en faisant jouer un extrait de ton papa de 1988. On est vraiment à une autre époque. Je pense que tu l'as déjà entendu, cet extrait-là. À l'époque, il y avait vraiment à Québec... une nouveauté. Il y avait des femmes qui chauffaient des autobus du RTC et ça faisait la manchette. André Arthur faisait des émissions de radio à peu près tous les matins là-dessus. Bonne chance, Olivier. Je te fais jouer ça par nostalgie, mais aussi pour notre grand plaisir. Que la force soit avec toi. Bonne fin de journée.
Puis merci de donner la voix à mon père encore une fois, parce que je pense qu'il serait grandement content de savoir que tous ses collègues médias continuent d'y donner une voix, même s'il est parti.
Bonne chance, Olivier.
Même si elle se sent beaucoup plus surveillée qu'un homme, la nouvelle chauffeur de la CTCQ estime que les gens sont très heureux de la chance qui lui est offerte.
Ah, oh, un nouveau chauffeur! Puis là, après ça, ben, une femme. Oh, ben, on ne l'a pas encore vu à Québec. Ça les étonne beaucoup, mais continuez, c'est une bonne affaire.
Pour la CTCQ, l'embauche de femmes n'est pas liée à une politique établie. Les candidates doivent répondre aux mêmes critères que les hommes. Et lors du dernier concours, une centaine de femmes avaient offert leur service. La CTCQ engagera 18 nouveaux chauffeurs en mai et juillet. Jacques Teasdale à Québec.
Willett.
Non, en direct.
On revient dans pas long.
Radio X.